Salut les marcheurs, bienvenue dans votre chronique du samedi matin. Je marche donc je suis. Amoureux de la nature, enfilez vos chaussures, partons pour un itinéraire tonique et convivial. Comme à l'accoutumée, donc démarrons cette chronique numéro 29, déjà 29, par les minutes remue-ménage. Le temps d'évoquer quelques-uns de nos contemporains qui ont fait de la marche un véritable sacerdoce. Aujourd'hui, Rebecca Solnit. Elle est à la fois une écrivaine, historienne et activiste américaine. Née le 24 juin 1961 à San Francisco, en Californie. Elle a étudié à l'Université de Californie à Santa Cruz, où elle a obtenu un diplôme en histoire. Sa passion pour l'écriture et la culture s'est manifestée dès ses années universitaires. Aujourd'hui, elle est reconnue pour ses contributions dans divers domaines, notamment la littérature et la critique sociale. Parmi ses œuvres, on retiendra plusieurs livres traduits en français, notamment « La mère de toutes les questions » ou encore « Ces hommes qui m'expliquent la vie » et surtout « Wanderlust, a history of walking », littéralement « Envie de voyager, une histoire de la marche ». En plus de son travail littéraire, Solnit s'est montrée active dans des causes sociales et environnementales. Elle a écrit sur des questions de justice sociale, d'écologie et de droits des femmes, participant à des mouvements et des discussions sur ces thèmes. Sa prose est souvent caractérisée par une approche mêlant récit personnel, réflexion philosophique et critique sociale. Solnit est également reconnu pour sa capacité à articuler des idées complexes, mais de manière accessible, ce qui lui a valu un large public. L'auteur a reçu plusieurs prix pour son travail, y compris le prix Guggenheim, et des distinctions pour son engagement envers la littérature féministe et son impact en tant que penseuse publique. Pour terminer sur le personnage, avant d'évoquer l'un de ses livres cultes, Rebecca Solnit demeure une figure influente dans le paysage contemporain de la littérature et du discours social.
Vous écoutez votre émission « Je marche, donc je suis » présentée par Robert Almalric.
Envie de voyager, nous allons donc feuilleter un des livres de Rebecca Solnit traduit en français avec le titre « L'art de marcher ». Dans cet ouvrage publié en 2020, Solnit explore la marche sous différents angles, à la fois comme une activité physique, une pratique sociale et un acte politique. Elle examine l'histoire de la marche à travers les âges, abordant des thèmes tels que la marche sous forme d'exploration. Elle discute de la façon dont la marche permet de découvrir le monde qui nous entoure, que ce soit dans un cadre urbain ou naturel. Elle souligne l'importance de la lenteur et de l'observation active. Ensuite, l'auteur retrace comment la marche a été un élément clé dans la littérature, l'art et le mouvement social, reliant les figures historiques et des mouvements comme le romantisme et les manifestations pacifiques. Mais Rebecca Solnit met également en avant la connexion entre marché et pensée, illustrant comment cette activité favorise la réflexion personnelle et la créativité. Enfin, féministe militante, elle aborde la question du genre en soulignant comment la marche a été historiquement perçue différemment par les femmes et comment cela affecte leur expérience du monde. Wanderlust a été bien reçu pour sa prose poétique et ses idées stimulantes, faisant de Solnit une voix influente dans la discussion sur la marche, la nature et la place de l'individu dans le monde moderne. Ce livre a également contribué à populariser l'idée que la marche est une activité essentielle pour la compréhension de notre environnement et de nous-mêmes, bien sûr.
Vous êtes bien sur Radio FM+, et vous écoutez « Je marche, donc je suis ». I'm not trying to have another conversation. Probably
not gonna wanna play me on your station. Pour parachever cette chronique, je vais faire un pas de côté pour évoquer le loup. Eh oui, ce mammifère carnassier avait été éradiqué de nos campagnes au début du siècle dernier, comme d'ailleurs dans de nombreux autres pays dans le monde, car il mettait en péril certains élevages. C'est un fait indiscutable, le loup est un prédateur impitoyable qui s'attaque aux troupeaux, essentiellement ovins et caprins. Mais ce que l'on n'évoque pas, c'est que depuis sa disparition, la faune, et par ricochet la flore, ont été profondément modifiées. Pour le plus grand plaisir des chasseurs, qui y ont souvent contribué, cette absence du loup a permis un développement incontrôlé des herbivores, sans prédateurs, cerfs, chevreuils et sangliers, pour ne pas évoquer les lapins, se sont multipliés venant modifier les écosystèmes et freiner le développement des forêts. Le loup, par sa seule présence, peut rétablir des équilibres perdus qui permettront à terme à la végétation de repousser et à la forêt de retrouver son équilibre. En plus, le changement ne profitera pas qu'aux arbres. Quand la flore repousse, ce sont aussi les oiseaux, les insectes et les petits mammifères qui vont occuper le territoire. C'est un constat patent qui a été réalisé à grande échelle dans les parcs américains, notamment à Yellowstone. Bon, je ne vais pas faire un plaidoyer pour le loup qui pose problème à beaucoup d'éleveurs, mais force est de constater que le loup, s'il ne rétablit pas la nature à lui seul, il peut remettre en mouvement tout un système qui était figé. C'est donc à méditer dans le discours ambiant, toujours trop radical. Bon, et pas de crainte pour les randonneurs qui n'auront en groupe aucune chance de voir les loups, même si leur population venait à progresser notablement.
Je marche, donc je suis, sur Radio FM+.
Pour clore cette discussion et cette première partie, je vous propose donc la chanson du loup. Extrait d'Émilie Joly et interprété par Alain Bachon.
Je suis un loup qui jadis était très méchant, mais qui par malheur un jour s'est cassé les dents sur une grand-mère solide comme un roc. Tout est à l'envers, c'est une triste époque. J'étais loup méchant, je suis maintenant gentil chien. Elle me promène et je lui mange dans la main. Si je ne file pas droit ou bien si j'ai tort, tout est à l'envers, c'est elle qui me mord.
Pauvre loup, pauvre loup,
pauvre loup. Jamais vraiment mangé le chaperon rouge. Ça c'est des histoires qu'on raconte au fond des bouches. Ce petit enfant blond était loin d'être bête. Il n'a jamais tiré ses sacrées chevillettes. Débarrassez-moi vite de cette grand-mère. Je suis prêt à tout, à ramper, à me tordre, mais je vous en prie qu'elle cesse de me mordre.
Pauvre loup,
pauvre loup,
pauvre loup,
pauvre loup,
pauvre loup,
pauvre loup.
Radio FM+, Robert Malric, je marche donc je suis, deuxième partie. Aujourd'hui, je reçois une personne que tous les auditeurs de FM Plus connaissent bien, Yolande Gounel, qui va nous parler, cette fois, de géologie, mais d'une randonnée un peu particulière.
Oui, alors bonjour Robert, bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de retourner autour du pic Saint-Loup. On y est déjà allé plusieurs fois, mais je voudrais en parler de nouveau. Alors, il y a trois raisons. D'abord, le terroir constitue un très bon substratum calcaire qui est idéal pour le vin. Or, je sais que pour faire plaisir à Robert, il faut lui parler du vin.
Oui, c'est un de mes domaines privilégiés, c'est vrai.
Alors, voilà, donc le vin. Et puis, ce sont aussi des endroits que les Montpelliérains connaissent, enfin, fréquentent énormément.
Ce sont nos deux totems, Pic Saint-Loup et Hortus. Pour les Montpelliérains, c'est effectivement les repères indispensables.
Voilà, alors on s'est dit que ça serait sympa de leur parler de l'histoire géologique, parce que la dernière fois, tu en as parlé.
Je l'ai évoqué, effectivement.
Voilà, lors de l'émission du 13 janvier, le Pic Saint-Loup, l'Hortus, eh bien là, on va parler des marges de géants. Parce que ces marges de géants se sont créées à l'époque de l'Éocène, donc après le Crétacé, hein, 10 millions d'années après la chute de l'astéroïde, dinosaure, etc., qu'on connaît tous. Et alors, l'époque de l'Éocène, eh bien, c'est une période charnière pour le Languedoc, parce que on a le régime de compression, donc la formation des Pyrénées,
oui.
On en a déjà parlé, et puis il va y avoir l'ouverture de la Méditerranée, c'est-à-dire c'est un moment où ça va changer de sens, en fait, la tectonique. Alors, on va faire un petit retour en arrière, donc on revient au Mésozoïque, au
oui.
Secondaire, donc les dinosaures. Et là, la mer, elle est très présente en Languedoc. Et on le sait parce qu'on voit...
Oui, quand on se promène dans la région, on voit de très nombreuses traces de
calcaire.
De calcaire, voilà.
Voilà. Du Jurassique et du Crétacé. Et alors, ces formations calcaires, elles reposent sur un socle plus ancien qu'on ne voit pas, c'est le Trias. On en a déjà parlé, mais on ne le voit pas parce que il est enfoui sous les couches calcaires. Mais il sert en fait de planche savonnée, si on peut dire, sur lequel va glisser le reste. Et donc, on revient, pouf, 66 millions d'années, la chute de l'astéroïde, plus de dinosaures. Et là, on est au tertiaire, donc Cénozoïque, Éocène, et la plaque ibérique Espagne, Portugal, qui cogne la plaque européenne. En fait, européenne, c'est pas tout à fait exact. C'est plutôt eurasienne. Parce que à cette époque-là, l'Europe et l'Asie se sont déjà
réunis.
Voilà. Et on le voit à l'Oural, puisque l'Oural, c'est la cicatrice. Et alors, le Languedoc, donc, eh bien, est juste à l'avant-pays,
oui.
Aux premières loges, si on peut dire, de cette collision.
Dont la cicatrice sont les Pyrénées.
Oui, tout à fait. Alors, exactement. Donc, quand vous allez marcher sur les marges de géants, vous allez vous souvenir que vous êtes en première ligne, finalement, de cette...
cette collision,
cette
en fait.
Collision. Alors, dans l'avant-pays. Hein. Alors, cette poussée, donc, elle provoque le décollement de la couverture sédimentaire, on en a parlé, donc Jurassique, Crétacé, et toutes ces roches, elles glissent sur le socle du Trias, et donc toutes ces roches vont se trouver déformées et plissées. Ça va nous donner donc le pic Saint-Loup et l'Hortus, et puis cela va entraîner une surrection, c'est-à-dire ça monte, et une émersion. Puisque la région s'élève, eh bien la mer
se retire.
Et elle ne reviendra plus. Alors, enfin, elle reviendra plus, sauf sur la plage. Mais
bien sûr.
Voilà, mais elle ne reviendra plus.
Elle recule nettement.
Voilà, elle recule nettement. Et heureusement, comme ça, on peut se balader au Pic Saint-Loup. Alors, puisque la mer se retire, le Languedoc devient un domaine continental. Et là, on a des sédiments issus des reliefs, notamment des calcaires, bon, du Lutétien. Ce n'est pas nécessaire de le savoir, dans le bassin de Montpellier. Ce sont des calcaires lacustres et palustres qui sont formés dans des lacs et des marais. Et ce sont ces roches, elles ont deux intérêts. D'abord, un intérêt immédiat, c'est l'eau que vous buvez. Elle sert de réservoir à Montpellier. Et puis, dans ces bassins, on trouve beaucoup de fossiles, notamment de mammifères. Alors, c'est à cette époque que maintenant il faut venir à la randonnée parce que sinon on va dire Yolande elle parle beaucoup mais elle ne dit pas où on va aller. Alors on va aller aux marges de Géant. Alors il faut prendre la direction Montpellier-Notre-Dame-de-Londres, Ferrières-les-Verreries et puis tourner à droite sur une petite route en direction de Gabriac-Rouet et tout de suite à droite derrière des grosses poubelles. Alors ne me dites pas les poubelles ça s'en va, ça fait 30 ans qu'elles sont là donc elles seront là encore dans 30 ans. C'est la seule façon de trouver, parce que je peux dire que moi, la première fois que j'y suis allée, j'ai un peu ramé. Et alors, vous arrivez, donc, il y a un parking, vous allez voir la chapelle Saint-Étienne de Gabriac. Elle est pas mal, allez faire un petit tour, enfin, allez voir. Bon. Puis après, vous marchez, c'est une marche petite, hein, 4,5 km, très peu de dénivelé. C'est facile et c'est intéressant avec des enfants. C'est vraiment très beau. Il n'y a pas tellement de pistes, mais on peut se balader un peu au gré de son imagination.
Oui, l'espace est vaste donc, et la vue est également dégagée, donc pas de problème de localisation.
Non, pas du tout. On risque pas de se perdre, ou alors il faut être pas doué. Hein. Vous allez suivre le chemin qui descend vers la rivière. La rivière, c'est le Lamalou. On va en reparler. Vous passez sur un petit pont et vous suivez le sentier qui remonte sur la gauche. Attention de ne pas aller à droite, c'est une propriété privée. Alors, vous allez marcher sur des grandes dalles lisses inclinées vers le sud et avec une vue donc sur la face nord du pic Saint-Loup et les falaises de l'Ortus. Et comme on l'a dit, vous allez pouvoir suivre les petits ruisseaux, vous allez pouvoir trouver des marmites avec de l'eau quand il n'y a plus. Enfin, c'est vraiment très sympa. Et alors, ces marches de Géant, eh bien, c'est un exemple spectaculaire de l'influence de l'Éocène, donc le tertiaire, sur le paysage actuel. Même si les roches sont beaucoup plus anciennes,
oui.
Puisqu'elles datent du Jurassique à cet endroit-là. Mais c'est durant l'Éocène, donc 100 millions d'années plus tard, que la structure géologique est mise en place. Alors, c'est comme un immense escalier, d'où le nom d'ailleurs, les marches de Géant.
Oui, car elles sont très, très larges et, se développent sur plusieurs dizaines de mètres. C'est des grandes marches, quoi.
Oui, et on peut grimper dessus. Il y a des petits... Des fois, ce n'est pas facile, mais on arrive à trouver des endroits où ça monte moins. Enfin bon, c'est vraiment sympa comme promenade. Et puis, il y a une inclinaison plus ou moins marquée. Bon, en général, l'inclinaison est assez marquée, mais il y a eu de l'érosion. Parce qu'il y a le Lamalou qui passe, mais il n'y a pas que le Lamalou, il y a d'autres petits ruisseaux. Et ça fait justement des petits endroits où on peut passer pour monter. Voilà. Donc, vraiment, allez-y, prenez les enfants. Si vous avez le courage, vous pouvez remonter jusqu'à la source du Lamalou. Là, c'est plus compliqué parce que ce n'est vraiment pas indiqué. Mais on en parlera peut-être une autre fois. Mais là, je voudrais qu'on poursuive sur le Ravin des Arcs, qui est un endroit, alors que je ne sais pas s'il y a des Montpelliérains qui ne connaissent pas le Ravin des Arcs.
Ah, c'est un point, effectivement, qui attire l'attention de beaucoup de randonneurs, n'est-ce pas?
Et oui, et alors, attention, donc le Lamalou, c'est une rivière intermittente. En été, il n'y a pas beaucoup d'eau, on peut marcher sous les arches, mais après des fortes pluies, il vaut mieux pas y aller, surtout que c'est un chemin glissant. Alors, c'est le voisin direct des Marches de Géant. On a vu que c'était la même rivière, mais il offre un spectacle différent, en tout cas géologique. Parce qu'on a vu que les marches, c'était des grandes dalles.
C'était plat, c'était... Ouais. Oui.
Alors que le ravin, c'est un canyon. Un canyon qui est creusé par les eaux. Alors, il y a eu les mêmes mouvements au cours de l'Éocène et le travail de l'eau sur les millions d'années, comme on l'a vu pour les marches de Géant. Mais ici, il y a quelque chose de particulier. Alors, il y a toujours nos couches de calcaire déposées au Jurassique, donc 150 millions d'années, dans une mer chaude. Mais le calcaire, c'est soluble par les roches, par l'acide.
Par l'acide.
Voilà. C'est comme ça d'ailleurs qu'on sait si on a du calcaire. Quand on veut faire le test, est-ce que c'est un calcaire ou est-ce que c'est un quartz ? Des fois, ce n'est pas très évident. Vous mettez de l'acide chlorhydrique dessus, pas sur l'évier de votre conjointe qui risque de râler parce que ça, voilà, ça,
oui,
fait,
ouais. Ça laissera des traces.
Ça laisse... Enfin bon, bref. Donc, les eaux acides, la pluie qui est chargée en CO2,
oui.
On connaît les fameuses pluies acides,
hein, oui.
Mais déjà, au Cénozoïque, au Tertiaire, les eaux pouvaient être acides parce qu'il y avait beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Et alors, lors de la compression pyrénéenne, quand les Pyrénées ont été érigées, la roche s'est pliée, comme pour les marches de géants, mais elle s'est aussi cassée. Et elle a donné des grandes failles et des fissures, et l'eau de pluie, c'est infiltré dans la roche. Et avec ce CO2, cette acidité, ça a dissous. Et finalement, au départ, il y avait des grottes, mais le plafond des grottes...
se sont effondrés.
Voilà. Et... heureusement, d'ailleurs, parce que comme ça, il s'est effondré avant que...
Que nous arrivions, quoi.
Voilà.
Comme ça, il y a plus d'inquiétude à avoir quand on est sur les lieux.
Exactement. Et ça a ouvert un canyon à ciel ouvert qui s'appelle un quartz. On parle de karstique pour ces formations. Alors, on va quitter le Lamalou, mais on reste dans la région. Et vers la fin de l'Éocène, donc à peu près une dizaine de millions d'années plus tard, la compression pyrénéenne s'essouffle et il y a de grandes cassures qui vont se faire. En fait, elles ne vont pas se faire, elles vont rejouer. C'est-à-dire qu'elles étaient là avant, mais elles vont repartir. La faille des Cévennes, la faille de Nîmes, et même le fossé de Sommières. Et puis, je vais vous parler en dernier de la source du Lez, très rapidement. Pourquoi c'est intéressant ? Eh bien, toute l'eau qui s'infiltre dans les fissures du pic Saint-Loup, de l'Ortus, etc., hein, ce fameux réseau karstique, né des fractures de l'Éocène, finit par ressortir à la source du Lez. Et c'est une source importante, puisque ça alimente Montpellier en eau potable depuis le XVIIIe siècle via l'aqueduc de Castries à l'époque. Et alors, c'est la preuve concrète que les cassures de la roche lors de l'époque éocène sont aujourd'hui vitales pour notre approvisionnement en eau.
Très bien.
Voilà.
Nous le retiendrons. Et de toute façon, nous sommes les Montpelliérains, nous sommes tributaires de cette fameuse source du Lez, n'est-ce pas ?
Oui.
Qui nous alimente. Bon, on prend aussi un petit peu d'eau qui vient du Rhône pour équilibrer, mais celle du Lez reste quand même importante. Bien, nous arrivons au bout de cette chronique. Merci Yolande. Pour retrouver nos émissions, donc, allez sur notre site www.radiofmplus.org, tout attaché. Vous pourrez récupérer le podcast de cette émission et des précédentes, soit en allant directement dans le programme le samedi 10h, soit en cliquant et en ouvrant la rubrique « Ici et maintenant ». Je vous propose de terminer l'émission, comme d'habitude, avec une chanson que Yolande a choisie. Yolande ?
Peter Gabriel, et ça s'appelle « The Carpet Crawlers ».
Voilà, merci, bye bye, à la semaine prochaine, 10h.
Soft and warm gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture a card in celluloid. There's no hiding the memory, there's no room to avoid. The crawlers cover the floor in the red oak corridor. On my second sight of people, they've more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking closing on the poor. The carpet crawlers, he dare call us. We gotta get him to get out. We gotta get him to get out. We gotta get him. Direction in the faces that I see. It's upward to the ceiling where the chamber's said to be. Like the forest fight for sunlight that takes root in every tree. They are pulled up by the magnet, leaving their free.